On a entendu pas mal de choses depuis ce matin. On a entendu que la définition de la notion de complexité, notamment, n'était pas satisfaisante, tout simplement, quelle que soit la manière de la formuler en Belgique ou en France. La première question transversale, comme ça, c'est de savoir si, au-delà des réflexions qu'il peut y avoir internes à la DIC, internes à l'ASE, internes à une institution, s'il y a des réflexions communes qui émergent à l'aune de ces projets. Enfin bref, est-ce qu'il y a des mouvements communs pour réfléchir entre acteurs institutionnels, acteurs sociaux et médico-sociaux sur c'est quoi qui fait complexité et puis co-construire les solutions d'accompagnement et de relais entre acteurs pour répondre à ça. Voilà. Question très large pour commencer. Je regarde. Vas-y, je t'en prie.
Bah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pas une question nouvelle parce qu'on n'est pas toujours satisfait de la façon dont on avait pu accueillir ou accompagner ces jeunes. Parce que Mathis est gentil de dire que maintenant ça va, mais je pense qu'il a subi aussi avant, voilà, des réponses des services qui auraient dû le protéger, qui ne l'ont peut-être pas fait comme il devrait, enfin en tout cas qui n'avaient pas la capacité de le faire. Hein. Donc on sait qu'on n'est pas encore complètement adapté pour accueillir leurs besoins et y répondre de manière adaptée. Et donc c'est pas un sujet nouveau. Je vous disais, on est en réflexion partout, mais on est aussi en... Alors peut-être, moi ça commence à faire un moment que je suis en protection de l'enfance, donc j'ai l'impression, comme vous le dites, de toute façon dans les études, c'est voilà, on dit la même chose depuis des années. La façon dont on arrive à la complexité, elle est bien décrite, elle est connue. Malgré tout, on n'arrive pas quand même à changer les systèmes. Et c'est pour ça que je crois plus à peut-être votre méthode, comme vous dites, de partir avec les gens qui ont envie et d'essayer de faire des choses et de tester, de travailler en réseau, de voir ce qui marche avec les jeunes, de voir comment on arrive à avancer avec eux, auprès d'eux, aussi avec les ressources théoriques, parce que j'oublie pas ça non plus, c'est-à-dire que il y a quand même des gens qui ont écrit, qui ont réfléchi, qui ont regardé ce qui pouvait marcher. On connaît mieux le développement des enfants, on connaît mieux l'impact. Voilà, on essaie, nous clairement, en tout cas au département du Nord, c'est un vrai sujet de travail, mais de manière plus générale. Hein, nous, on veut pas parler que des quelques cas, qu'on voit émerger, sur lesquels on est tous en difficulté. Les jeunes qu'on accompagne, ils ont tous vécu des psychotraumas. Enfin, je veux dire, ils ont tous vécu des traumatismes à des degrés divers, sur des périodes plus ou moins longues. Et donc, on se dit que si on arrive mieux à traiter ceux qui sont le plus en souffrance, on aidera tout le monde. Mais c'est vrai que ça reste compliqué. C'est parfois décourageant. Moi, je sais que parfois, je peux m'agacer de ne pas avancer assez vite avec d'autres institutions. Il y a quand même une complexité des organisations, des services, des institutions qui fait que ça reste pas facile. Heureusement, parfois, on a des espaces de liberté et on les prend. En fait, c'est ça, nous, ce qu'on a fait. On prend des espaces de liberté, on prend des acteurs qui ont envie de travailler avec nous, on essaie de construire des choses. Parfois, on les construit dans l'urgence. C'est peut-être un peu notre souci, ce qui fait que on ne prend pas forcément le temps de bien poser, mais on se dit que c'est peut-être en marchant qu'on va les améliorer. Donc voilà, on est un peu dans cet esprit-là et on est ouvert à toutes les institutions qui veulent y travailler avec nous.
Merci beaucoup.
Si quelqu'un...
Je ne sais pas, peut-être pour rebondir côté français, puis on donnera ensuite la parole à Madame Rucquoy, mais Madame Rath, du coup, vous pilotez des équipes mobiles, entre autres, mais notamment, en tout cas, c'est à ce titre-là qu'on vous a invité ce matin. Et peut-être vous pouvez présenter en deux mots ce que c'est, puis quand ça existe, et puis où vous en êtes dans la mise en œuvre de ce projet-là aujourd'hui. Est-ce que votre micro fonctionne?
Je pense. Je sais pas. Ouais.
Si, oui.
Ça va aller.
Parlez bien près, du coup.
Donc déjà, merci de m'accueillir. Donc, Madame Arad, donc, je suis directrice adjointe au niveau du pôle enfance, qui regroupe des MECS, des services qui interviennent à domicile et des équipes mobiles situation complexe. Alors, on les appelle situation complexe, mais alors soit on est en débat, soit je me dis, est-ce qu'il y a une définition? Je pense qu'il n'y a aucun terme approprié, qu'on pourrait peut-être, s'il y a une modification, parler de parcours complexe et pas de situation. Peut-être. Alors, au niveau des équipes mobiles, alors au niveau de la FEJI, hein, donc l'association pour laquelle je travaille, cette notion d'équipe mobile existe, hein, depuis 2016. D'abord sur le versant handicap, puisque vous savez, en France, c'est l'ARS, hein, qui a en charge les enfants en situation de handicap, avec les IME, les ITEP, etc. Et on a tous eu dans nos établissements des enfants pour lesquels on ne trouvait plus de réponse, plus de solution. La FEJ, à ce moment-là, avait décidé d'y répondre. Alors, ça fait référence au rapport PIVETO, qui a fait naître quelque part à ces équipes mobiles. Et on s'est rendu compte de notre côté que sur ces équipes, enfin sur ces parcours, les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance étaient surreprésentés. Oui, il y a le handicap, alors on peut dire aussi double vulnérabilité, mais voilà, quelque part, ce sont des enfants qui avaient des besoins, et des besoins un peu plus importants que les autres. En 2019, le département qui est aussi... Un peu dépassé par les réponses qui existaient à ce moment-là, souhaite mettre en œuvre et déployer, en tout cas sur le sud du département, la métropole autour de Lille et le littoral, des équipes mobiles pour les enfants confiés donc aux familles d'accueil et aux foyers, donc les maisons d'enfants. Ces équipes, elles sont déployées nous sur les 4 territoires. Si j'ai envie de dire l'évolution que le département a permis, c'est de mettre l'accent sur le soin, mais le soin au sens large, c'est-à-dire la notion du médical, la notion thérapeutique et le soin à travers les prises en charge éducatives. Donc avec une équipe qui est aujourd'hui, on a 2 bases, mais qui interviennent sur les 4 territoires. Et on a quand même un effectif pour être au plus proche des enfants qui est assez important, composé de personnel éducatif, d'infirmiers, de psychologues. J'ai entendu tout à l'heure aussi, vous êtes sur certaines notions thérapeutiques. On se base sur les mêmes concepts, mais on a souhaité aussi élargir, notamment avec d'autres concepts plutôt sur les comportementalistes, les méthodes intégratives. Plus récemment, on s'est rendu compte avoir des compétences de neuropsychologue, ça pouvait être intéressant. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, pas chacun dans son coin en venant on va dire non, moi je vois ça. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain, on est d'abord au service des enfants. Voilà, c'est juste ça. Alors, au plus proche des familles d'accueil, donc des familles d'accueil qui sont démunies, qui, sûr, donnent de l'amour, mais comment, quand ça dépasse un peu, comment on peut agir. Et notre travail, c'est, quel que soit l'intervenant, c'est de se centrer d'abord sur le jeune, les besoins du jeune. Et j'entends, Mathis, dans ton témoignage, ce qui a manqué. Alors, on se le dira tout à l'heure, mais ton parcours me parle. Parce que là où tu es arrivé dans le Nord, j'ai entendu parler de ton parcours, notamment lorsque tu étais hospitalisé. Voilà. Voilà. Donc il y a eu, je pense que tu as rencontré une fois un membre de l'équipe au moment où tu étais hospitalisé. Et aussi de pas oublier ces familles qui ont du mal à verbaliser la difficulté et de dire je suis en difficulté. Parce que c'est quand même plus simple aussi pour un adulte de dire c'est lui qui bouge beaucoup, c'est pas moi. Hein. Moi, je fais tout comme il faut. C'est pas si simple. Ça demande un gros travail sur soi. Et on essaie de différencier, en fait, le travail qu'on va apporter aux jeunes, mais aussi aux adultes qui entourent le jeune. Vous avez parlé tout à l'heure de retracer l'histoire. C'est très difficile. Mais on le fait. Lorsqu'on a démarré, on nous a dit, attention, ce sont des enfants confiés. Donc, la parentalité... Enfin, cette notion de parentalité, d'accompagner un parent, c'est pas votre travail, puisque les enfants, ils sont confiés. Au départ, on a commencé comme ça, puis on s'est adapté au fur et à mesure, et on s'est dit, si le parent, il existe quand même, il est quand même plus à même de nous donner l'histoire et ce qui a pu se passer à un moment donné. Et travailler de cette manière, aller à la rencontre des parents, c'est quelque chose que l'on fait pour démarrer l'accompagnement. C'est-à-dire que oui, on va prendre en compte les difficultés, on va prendre en compte les ressources que le jeune a, parce que très souvent, on parle que des problèmes et pas du reste. Et puis, l'histoire, parce que on vient tous de quelque part, et ça démarre pas quand on vient à la rencontre du jeune. Et puis, la notion tout à l'heure, pardonnez-moi votre nom, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la santé mentale. En France, c'est pour ça que j'aime bien la notion de parcours complexe, parce que c'est pas le jeune qui est complexe. Ce qui est complexe, c'est de dépasser les frontières de nos institutions et de travailler ensemble, sans étiquette. C'est ça qui est difficile. Et j'ai envie de dire que l'avenir pour apporter les premiers besoins aux enfants, c'est d'abord ce travail-là. Si je ne m'attendais pas à voir le parcours de Matisse aujourd'hui, si on reprend l'histoire de Matisse, lorsqu'il était hospitalisé, on a pris connaissance des problèmes de santé, on a demandé est-ce qu'il a, c'est juste un couloir qui mène à la pédiatrie. Eh bien, ça n'existe pas. C'était un combat et on n'y est pas parvenu. De notre regard, ça semblait essentiel de ne pas dissocier. Et puis, il y a la question, qu'est-ce qu'un jeune, parce qu'il voulait en sortir, qu'est-ce qu'un jeune foutait dans un hôpital psychiatrique pour adultes, sans lui demander et le pourquoi, le comment. Et c'est là où on n'est pas bon, faut se le dire aussi, on n'est pas bon et on essaie, nous, en tant qu'équipe mobile, à notre petit niveau, d'aller porter cette parole-là auprès de toutes les institutions, qu'elles soient du médico-social, hein, lorsqu'on parle des ITEP. Je ne sais pas s'il y a des ITEP dans la salle, mais aussi ce cloisonnement en se disant bah, « Nous, on va bosser l'inclusion, mais on va sortir des jeunes d'assistance. » Mais il y a des jeunes aussi qui ont besoin de compétences d'ITEP ou d'IME. Et peut-être que pour moi, c'est l'avenir pour que les enfants se sentent mieux. Et la santé, juste pour terminer... Quand on parle de santé mentale, on parle beaucoup de psychiatrie, mais quand nous, on recueille hein, des situations de jeunes qui n'ont pas de vaccin, pas de le parcours de santé classique, pas de médecin, parce qu'ils ont bougé beaucoup d'institutions, peut-être faut-il commencer par ça avant de penser psychologue, psychiatre, etc. Voilà.
Merci beaucoup. Côté belge, Madame Rucquoy, la réflexion donc sur la complexité, les nouveaux dispositifs, et puis je voudrais qu'on revienne dans un deuxième temps, ce sera peut-être avec vous d'ailleurs, sur la place des familles qui est un point essentiel aussi.
Voilà, donc je pense que Madame Canella a déjà abordé un peu hein, cette question, et même largement, dans son intervention de ce matin. Alors, au niveau terminologie, peut-être dire que nous, on parle aussi de jeunes à la croisée des secteurs. Alors, je ne sais pas si c'est mieux, je ne sais pas si c'est moins bien. On parle de moins en moins de situations complexes, même si on utilise encore ce vocabulaire-là. Mais voilà, jeunes à la croisée des secteurs, ça a aussi le mérite de mettre l'accent sur la nécessité que l'ensemble des secteurs concernés se mobilisent. Alors, le travail au niveau de cette thématique... Il doit se faire à tous les niveaux. Il doit se faire au niveau des administrations, et c'est le cas, et il y a des accords de collaboration. Il y a des réflexions qui sont menées, hein, vraiment des réflexions qui réunissent des représentants de l'administration et des différents cabinets concernés, donc notamment le cabinet wallon, mais aussi le cabinet de l'aide à la jeunesse, hein, puisque... Comme le disait Madame Canella ce matin, l'aide à la jeunesse est une matière qui est communautaire, qui n'est pas régionale. Voilà, donc il y a toute cette complexité, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience politique, donc à la fois au niveau des représentants politiques et au niveau des administrations, qu'un travail est nécessaire. Donc ce travail, il se fait à ce niveau-là. Via des réflexions, via des projets qui sont portés, qui sont soutenus au niveau des administrations. Ben voilà, on parlait du projet Jeunes avant tout ce matin en première partie, et c'est déjà un exemple, hein, de projet qui est porté. Et alors, on essaie aussi de soutenir un travail de réflexion au niveau du terrain, hein, via l'organisation de rencontres, de groupes intersectoriels pour favoriser les échanges entre les acteurs de terrain. Parce que, en fait, on se rend compte que finalement, les solutions qui marchent sont souvent des solutions qui sont co-construites, mais que c'est souvent aussi une question de personnes. Et une question de relations, de courants qui passent, d'échanges entre les personnes. Et donc, prévoir des lieux d'échange où les acteurs des différents secteurs peuvent se rencontrer pour pouvoir tisser par la suite des solutions autour de cas individuels, on se rend compte que ça marche. Et ces acteurs de terrain sont des acteurs de terrain qui viennent des différents secteurs concernés, mais aussi des administrations. Hein, Madame Canella évoquait ce matin l'action des agents cas prioritaires, même si on n'aime plus de parler de cas prioritaires, l'action des agents suivis jeunes au niveau des bureaux régionaux, ben, ces personnes sont présentes sur le terrain pour travailler à la construction de solutions. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important, mais c'est quelque chose qui n'est pas suffisant. Et donc, il faut évidemment mettre en place des politiques. Et ben voilà, il faut avoir le courage de le dire aussi, des moyens financiers qui seront nécessaires pour pouvoir soutenir des initiatives, comme celle de la Cour carrée, hein, c'est vraiment une initiative qui est intéressante, qui est novatrice aussi de par son aspect court terme, son aspect tampon comme ça, une espèce de service de crise, mais voilà, sans être tout à fait un service de crise. On espère qu'il pourra être ouvert aux Belges aussi à un moment donné. Hein? Et donc tout ça effectivement doit être soutenu. Maintenant, c'est évidemment un travail qui est un travail long et qui est à tricoter, parce qu'il n'y a pas qu'une réponse, il y a toute une diversité de réponses, mais le premier enjeu, c'est l'ouverture, et c'est que nos services, nos acteurs de terrain puissent aussi s'ouvrir à ces publics-là, et ça, c'est un travail qui est quotidien. Nous devons les sensibiliser, nous devons soutenir, et on doit les soutenir par rapport non seulement à l'encadrement qui va être nécessaire, mais par des politiques de formation, etc. Donc ce travail-là, c'est un travail qui est hyper transversal. On a encore vraiment beaucoup, beaucoup de chantiers à mener. Mais clairement, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vraie volonté de travailler sur ces situations complexes où ces jeunes à la croisée des secteurs.
Merci, Madame Brucquois. Pardon, je vous interromps. C'était OK ou...
Oui, ça va.
OK. Merci beaucoup. Alexandra, tu voulais rajouter quelque chose?
Je voulais juste rajouter quelque chose parce que ça peut paraître un peu décourageant quand on dit oui, il faut bouger des lignes entre institutions, etc. Ça peut paraître impossible. Et en plus, dans le cas des situations dont on parle, en vrai, on se dispute, on n'est pas d'accord, on est en tension. Enfin voilà. Donc ça peut paraître hyper compliqué si on attend que les institutions, elles bougent. Mais nous, ce qu'on voit aussi comme piste, et là, pour le coup, sur lesquelles on aurait la main et pour lesquelles on pourrait travailler ensemble, là, tous ceux qui sont mobilisés sur la prise en charge des enfants difficiles, c'est vraiment la formation des équipes qui accueillent ces jeunes. Je pense que nous, on pense que si les familles d'accueil, les maisons d'enfants étaient un peu mieux préparées à accueillir les symptômes, à réagir, voilà, ça, je me dis qu'on pourrait déjà le faire et être déjà globalement plus accueillant, parce que ce que vous nous avez dit n'est pas non plus inatteignable. Enfin voilà, ça paraît, on a une chambre adaptée, un accueil, une équipe solide, une équipe qui travaille ensemble. Ça me semble pas infaisable, ça. Donc ça, nous, on espère vraiment pouvoir former davantage les équipes entières, en fait, de maisons d'enfants à la prise en charge des psychotraumas, non pas pour y répondre de manière sur le soin, mais au moins dans leur prise en charge d'être contenant et soignant par leur prise en charge et d'apaiser un peu les tensions.
Ok, merci beaucoup. Je voulais revenir sur la prise en compte des familles et peut-être en me tournant vers vous, Monsieur Ruel. La place des familles dans des questions de protection de l'enfance ou d'aide à la jeunesse, suivant du côté duquel on se situe, c'est souvent une question sensible. Comment, au sein de la Cour carrée, vous arrivez à, ou vous projetez de prendre en compte cette question?
Alors, c'est assez compliqué, hein, parce que tous les jeunes n'ont évidemment pas de famille à proprement parler. Moi, j'essaie toujours de prendre contact avec les familles afin de refaire le parcours du jeune, donc à travers un génogramme ou une ligne du temps, ce qui est vraiment très important et c'est souvent à leur demande. Maintenant, à côté de ça, il y a des injonctions judiciaires où on ne peut pas reprendre contact avec les familles, où les discours sont parfois un peu erronés au niveau du parcours de vie. Mais moi, je viens du secteur de l'aide à la jeunesse en Belgique et c'est vrai que je remarque ici beaucoup de difficultés, beaucoup de réticences au niveau des référentes sociales d'avoir accès justement à ces familles. Maintenant, moi, je ne cherche pas absolument à les rencontrer parce qu'au niveau de la distance géographique, c'est très compliqué. mais tout du moins avoir un contact téléphonique au moins pour renvoyer certaines choses aux jeunes. Si vous me permettez, j'aimerais revenir sur l'aspect médical et thérapeutique, parce que bon, je pense que Mathis a réagi par rapport à ça, parce que depuis que tu es accueilli à la Cour Carrée, ça fait, nous deux, on se bat par rapport à ça au niveau médical. Donc Mathis écrit des mails, il écrit des courriers, conjointement, lors des bilans par exemple, et à l'heure actuelle, on n'a toujours pas de rendez-vous médical pour un concret, oui, vraiment concret. On a des pistes, hein, mais on n'a pas un rendez-vous médical concret. Ça fait un an et demi qu'il y a des pistes, mais je me suis engagé avant ton départ à avoir vraiment un rendez-vous médical. Sinon, je vais devoir payer quelques pralines au chocolat. Hein. C'est comme ça qu'on a prévu les choses. Et au niveau thérapeutique, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire que les jeunes arrivent chez nous avec parfois des suivis en CMP, mais les dates n'ont pas été honorées, les dates ne sont pas projetées. Et une partie de mon travail, c'est vraiment remettre ça en place. Mais c'est très, très, très compliqué parce que, bon, c'est la même chose pour en Belgique avec les plannings familiaux, les centres de guidance. On est confronté aussi à des professionnels qui n'ont pas vraiment de disponibilité par manque de temps, par manque du nombre de professionnels au niveau médical. Et donc, ça veut dire que nous, on arrive dans un accueil à la Cour Carrée avec beaucoup de demandes. Et à côté de ça, nous, on ne sait pas répondre toujours à cette demande. Ceci étant, j'aborde ça parce que quand il y a justement des situations très dynamiques, proactives au niveau des référentes, ça fonctionne très bien. Et ça a fait débloquer pas mal de travail, y compris avec Cyriane, au travail d'entretien, de soutien individuel en face à face. Et là, on remarque vraiment qu'une évolution, mais rapide, des jeunes qui ont justement accès à tout ce travail thérapeutique introspectif. Quoi.
Très bien, merci beaucoup. Vas-y, je t'en prie, Claude.
Oui, enfin, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, ce que vous avez dit. Effectivement, avoir des gens qui sont motivés au départ par la problématique, on constate quand même qu'effectivement, ça permet de déployer ce qui semble indéployable autrement. Et alors, vous parlez de la formation, de sécurisation des pratiques. Je pense qu'effectivement, j'ai déjà vu dans des espaces ainsi interinstitutionnels de réflexion où parfois, il y avait une hyper angoisse de professionnels par rapport à ce qui pourrait advenir d'un jeune dans une situation qui semblait un peu folle pour eux, alors que manifestement c'était la solution que le jeune avait trouvée pour pouvoir s'en sortir. Et donc ça renvoie à la notion de résilience pour moi. Et je pense que parfois c'est l'angoisse des adultes qui rentre en confrontation avec la résilience des jeunes et qui freine finalement ces processus qui pourtant pourraient normalement se déployer. Plus que malgré ça, enfin, je veux dire, si on y laissait un peu plus de place, ça fait partie de la prise de risque aussi, en fait. C'est bien décrit d'ailleurs par Barrère et Fiacre dans les témoignages de l'époque, c'est qu'il faut parfois prendre un risque qui va bien au-delà de, effectivement, et parfois qui met en danger peut-être, hein, professionnel, mais qui permet que ce n'est pas quelque chose.
Alors on pourrait revenir cette notion du risque, ça me rappelle un cadre de rencontre dans les journées du CNAEMO en l'occurrence autour de la notion de pouvoir d'agir. Mais avant ça, j'ai envie de tourner le regard vers la salle. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions, des témoignages, soit pour creuser une question qui aurait été abordée avec nos intervenants, soit pour réagir et dire chez moi ça se passe plutôt comme ci, comme ça, voilà ce que ça m'évoque, nous aussi on le fait, on y arrive. On n'y arrive pas. Voilà. La parole est à vous, messieurs, dames. Une devant. Alors, la petite règle du jeu habituel, on se présente et on y va après.
Oui, bonjour. Régine Masquelier, je suis directrice pédagogique dans une institution d'aide à la jeunesse, donc qui organise plusieurs services. Mais en fait, moi, j'avais une question très concrète à poser à Mathis. J'aurais voulu savoir si son intérêt pour l'horticulture, le jardinage, existait avant son arrivée à la Cour Carrée, ou bien si c'est un talent qu'il a découvert à ce moment-là, au moment de son accueil.
Alors non, je suis né à Braine-l'Alleud, comme je vous avais déjà dit. Et par contre, je suis allé directement dans le sud, où j'ai vécu à Aix-en-Provence quelques temps, et après je suis parti à la campagne. Où mon beau-père est devenu oléiculteur, donc les olives, ma mère dans le safran et les abeilles, donc j'ai découvert ma voie en fait, parce que j'étais presque fils de paysan en fait, donc on faisait que ça. Donc je rentrais de l'école, j'allais travailler dans les champs, avec grand plaisir d'ailleurs. Pendant les vacances, j'ai aidé ma mère dans l'apiculture, où j'ai acquis des énormes connaissances. Et donc le potager, tout ça, et puis justement le fait d'être quelque part apiculteur, parce que j'avais déjà mes 3 ruches à moi, ça m'a permis de savoir beaucoup de choses sur les plantes mellifères par rapport aux abeilles, de ce qu'elles vont butiner, tout ça. Et ça me permet aussi de savoir la plante, qu'est-ce qu'elle va avoir effet sur le corps humain, comme par exemple le plantain qui va être très utile par rapport aux piqûres d'abeilles ou guêpes ou frelons, ou qui va soulager. Il y a plusieurs choses, tout ce qui est plantes médicinales, j'adore ça, comme le romarin, le laurier, tout ça. Je connais la composition des herbes de Provence, donc il y a beaucoup de choses que je connais et que j'ai appris grâce à l'apiculture. Et j'ai appris la taille fruitière avec mon beau-père par rapport aux oliviers. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai acquis grâce à mes parents.
Un vrai expert. Pardon, carrément.
Ah oui, et donc tu as vraiment mis tout ce que tu connaissais, tu as apporté tout ça à la cour carrée, c'est ça?
J'ai mis mes connaissances en application, effectivement, parce que c'est quelque chose qui me détend et qui me permet de décompresser de ma journée, en fait. Au-delà de ma cigarette, évidemment.
C'est avec quelle plante, ça, là?
Le tabac. Et je tiens à vous rassurer, je ne fume que le tabac.
Ah bon?
Merci. Donc,
ça a répondu à votre question, madame? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Ou témoignage, hein, je le redis, c'est important.
Une question qu'on aurait envie de poser à Mathis. Alors, Florence Sauré, chef de service d'une équipe mobile sur la Flandre. Et après la cour carrée?
Très bonne question.
Alors, moi, comme j'ai dit au troisième bilan qui s'était passé, je souhaiterais, et je pense que ça sera très envisageable, c'est d'aller dans un appartement en toute autonomie. C'est pour ça que je fais mes preuves en essayant de tenir ma chambre propre, en essayant de faire des projets de cuisine autonome, donc où je pourrais cuisiner en autonomie, toutes ces choses-là, parce que j'aimerais bien vraiment avoir mon autonomie et commencer mon apprentissage dans l'espace vert, pouvoir travailler dans le paysagisme, et parce que j'aime vraiment aménager les jardins, je sais faire de belles choses, sans me lancer des fleurs.
C'est le cas de le dire.
Alors Mathis, il y a des associations dans la salle, je pense que certains pourront te proposer des choses, on lance un appel pour la suite.
Oui, c'est sûr, mais oui, moi c'est vraiment quelque chose que je voudrais être en autonomie, c'est avoir mon petit coin à moi, sans forcément être dérangé, enfin être dans mon monde en fait, ce qui me permettrait de pouvoir moins être embêté, moins par rapport au harcèlement, clairement, parce que j'ai vécu beaucoup de harcèlement dans les groupes de vie, par rapport à un problème de santé que je préfère tenir pour moi. Et je ne veux pas revivre ça. Et puis surtout, je pense que je suis prêt à aller en autonomie. Parce que déjà, avec mes parents ont fait un gros travail d'autonomie avec moi. C'est-à-dire qu'ils m'ont appris à faire le ménage, la machine, le repassage, la cuisine, toutes ces choses-là. Et ça, pour ça, je les remercie. Parce que c'est quelque chose que pas tout le monde ne sait faire. Je parle de jeunes. Hein.
Oh, même les adultes, hein, parfois. Hein.
Ouais, voilà, mais... Je tiens vraiment à faire ça et pouvoir vraiment m'en sortir. J'ai vraiment une envie de m'en sortir qui est grosse. J'ai vraiment une grosse envie de m'en sortir parce que j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Alors ça, certes, j'ai fait des bêtises, certes, j'ai clairement merdé, mais je veux vraiment désépaissir mon dossier et faire en sorte qu'on soit fier de moi un jour et que je sois fier de moi moi-même et que je prenne confiance en moi.
Bravo, bravo, bravo. Une autre question.
Bonjour, donc Gérald Sailly, chef de service de l'équipe mobile Situation Complexe, donc en France, hein, sur les secteurs du Calaisis, du Montreuilois, du Boulonnais et de l'Audomarois. Voilà, moi je voulais un petit mot par rapport aux interventions des différentes interventions qu'il y a pu avoir, notamment celle de Monsieur Berthe, où clairement ça vient un petit peu conforter notre pratique professionnelle. voilà, où constamment on s'interroge justement sur notre pratique, et on a toute une première période d'intervention où justement je reviens un petit peu, vous parliez de la mémoire de parcours, notamment où justement on va aller rechercher tous ces éléments, hein, voilà, on a rien inventé, hein, on agit un peu de façon systémique, etc., en allant à la rencontre de tous les partenaires qui ont un peu intervenir justement dans la situation du jeune et les partenaires qui interviennent au moment présent également. Voilà, l'idée étant de recentrer justement un petit peu sur ce qui a été fait, etc., de déterminer un petit peu justement tout ce qui est facteur de risque et de protection par rapport justement à son histoire, par rapport à l'environnement social, etc., au parcours de soins, etc. Et l'idée aussi, on parlait tout à l'heure de co-construction justement de solutions, vraiment cette idée justement en allant justement identifier les besoins dans la situation, et donc aussi bien du jeune mais aussi de sa situation, et d'aller rassembler à un moment donné tous les partenaires qui sont impliqués pour construire justement ces solutions. Voilà, ça vient conforter aussi notre pratique, et voilà, je tenais juste à le souligner en fait, et ça vient conforter cette idée que on est quelque part dans le vrai, dans ce qu'on peut proposer dans notre accompagnement en fait.
Voilà. Merci à vous pour ce retour d'expérience. Encore une main devant.
Bonjour, Mathieu Launay, je suis directeur adjoint à la direction Enfance Famille au département du Nord. Moi, je voulais en fait entendre, si c'est possible, l'équipe de la Cour Carré, enfin les éducateurs qui sont au quotidien avec les jeunes, de savoir, en effet, en plus, je crois qu'ils sont là, savoir...
Vous êtes cernés.
De savoir, en fait, déjà pourquoi ils ont accepté ce défi fou, pour reprendre les propos de Monsieur Fourmeau de ce matin, mais aussi ce que ça faisait, parce que c'est vrai que... qu'on discute même entre nous au niveau de la direction, on se dit, c'est accueillir 12 jeunes à problématiques multiples, ce que ça crée en termes d'effet de groupe, aussi bien de façon positive que négative peut-être. Mais voilà, si quelqu'un de l'équipe veut bien témoigner par rapport à ça. Quoi.
Donc, bonjour à tous, de Crane Jean-Benoît, intervenant à Cour Carré. Moi, ma motivation clairement première... Je leur dis devant mon directeur qui est présent, mon chef de service, je faisais 100 km par jour pour aller travailler en tant qu'éducateur de rue, où j'ai vécu certaines situations, voilà. Là, je travaille dans la commune où j'habite quasiment à 10 minutes. Confort de vie pour moi, personnellement, première motivation. Deuxième motivation, pour être honnête, en rue, j'avais des gamins. Enfin, j'étais du côté de Moucron-Roubaix, pour donner un petit peu la localisation. J'ai eu tellement de gamins qui ont fait tellement de parcours d'institutions qui finissaient en rue, parce qu'il n'y avait pas de solution pour eux après, que j'ai l'occasion de travailler avec eux. Voilà la deuxième motivation. Troisième motivation, on a une équipe assez chouette. Hein, voilà. La problématique des 12 jeunes, on va pas se mentir, de temps en temps, c'est tendu. Mais voilà, ça reste des ados, donc. Je pense qu'il faut entendre que ce sont des ados, qu'à un moment donné, il y a des questions qui se posent, qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du développement personnel. Je tiens aussi à préciser une chose pour Mathis. Il faut savoir que le jeune qui est présent apporte beaucoup de choses au niveau des autres, et donc ça aussi, c'est une force. La collectif, donc ça veut dire que Mathis apprend des choses. Enfin, j'ai du mal à parler en public, excusez-moi, et j'ai horreur de ça. Mais voilà, Mathis apporte des choses aux autres, donc la collectivité pour moi n'est pas un problème, dans le sens où Mathis met en avant ses compétences, et un autre jeune qui a moins de qualité, je veux dire, cognitive, pour parler un peu bêtement, profite de ça mais apporte d'autres choses à Mathis. Et donc on a un équilibre qui se fait dans le groupe, où chacun prend sa place, et où je trouve que ça nous permet de pouvoir travailler aussi le vivre ensemble, qui, comme Mathis le parle, avant a vécu beaucoup de harcèlement. Ici, ça nous permet aussi de lui apprendre que la vie en collectivité est possible, mais que malheureusement, il y a des lois et des choses pour se défendre. Donc, pour moi, la prise en charge des 12 jeunes n'est pas problématique en tant que groupe. À partir du moment où on arrive à mettre le cadre et la chose qui permet l'encadrement des 12 jeunes, en leur laissant leur place aussi individuelle. Par exemple, Mathis qui parlait de son potager... les soirs où il est tendu, pour ça que je le regarde, vient me voir et me dit « JB, est-ce que je peux aller au potager ?»« Voilà, tiens, un outil. Va tout seul, fais-toi plaisir. Enfin, fais tes plantes de romarin. Va jouer dans le poulailler. Enfin, voilà. M'emmerde pas avec ton truc. Va dans ton coin. » Et voilà. Donc, clairement, Je pense qu'il faut pouvoir leur laisser une place personnelle au sein du groupe. Ah, et après, pour moi, tout se passe bien, où ils ont leur échappatoire collective. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
Merci à vous. Est-ce que vos collègues ont un complément ? Merci. Il y avait un autre monsieur qui avait une question.
J'ai apporté un complément. Oui. Juste au niveau du fonctionnement de la Cour carrée, il faut savoir qu'il y a effectivement il y a des intervenants, il y a Cyriane, il y a quand même un chef de service qui permet de mettre de la distance par rapport à ce qu'on vit. On fait des sortes de supervision, je vais dire Benoît, si tu le permets. Ce qui est important, c'est que l'encadrement est plus conséquent que dans d'autres services résidentiels pour jeunes. Et donc, ça nous permet aussi, quand il y a des conflits, de pouvoir faire tiers avec un intervenant. Mais tout est constamment verbalisé, métacommuniqué, et tout est repris, que ce soit en réunion, que ce soit avec le jeune, en individuel par la suite. Donc, nous, on peut se permettre ce temps-là aussi et permettre l'épanouissement ou de nouvelles compétences chez les jeunes. Voilà.
Merci beaucoup. Monsieur, vous aviez une question ?
Alors moi, c'est juste un partage d'expérience, hein, parce que je suis directeur d'une maison d'enfants pour l'association LEFPA dans les Hauts-de-France. Et en même temps, on a mis aussi un projet expérimental en lien direct avec le département du Nord, le DAS, le dispositif d'accompagnement spécifique. On est effectivement sur 8 situations, alors d'incasables, j'aime pas le terme, parce que je pense que chaque gamin a sa place à un moment donné. Ça, c'est ma définition. Ensuite, le projet reste aussi une question de personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être en faculté d'aller travailler, sans être réducteur dans mes propos, hein, parce que ces gamins, en règle générale, ont recumé comme un certain nombre de placements, un certain nombre d'institutions. Et la finalité, c'était qu'à un moment donné, de créer un projet où ils sont chez eux, quoi qu'ils fassent. Nous, c'était notre définition. On a eu des passages à l'acte énormes, ça c'est, on le sait, mais finalement, au bout d'un an et demi maintenant d'expertise et de recul, on peut dire que ces gamins-là s'installent, se posent. La question la plus importante, c'était pas la question des jeunes au final. Ça c'est ma vision des choses et c'est ce que je partage avec mon équipe. C'est davantage qu'est-ce qu'on met en face, si je peux me permettre. Et la question ARH, elle était primordiale dans la construction du projet. En soi, c'est-à-dire que ma hantise, c'était d'avoir un turnover. Et en règle générale, quand vous avez le turnover, l'institution, elle ne dure pas. Et la finalité, effectivement, c'était vraiment cette question RH, où il fallait avoir des personnes disponibles psychiquement, parce qu'il y a des décharges émotionnelles, parce qu'à un moment donné, il y a une fatigabilité mentale, parce qu'on sert de réceptacle. Le gamin, pendant plusieurs années, effectivement, a eu des adultes en face de lui. Il y a eu une perte de confiance. La finalité, c'était aussi de recréer du lien. Et en règle générale, quand on recrée du lien, ils ont leur schéma qui leur est propre. Nous, on est là pour le déconstruire à un moment donné. Donc, effectivement, ils vont tester ce lien-là. Par quoi ? Par l'agir. Comme vous l'avez dit, Monsieur Berthe, et je vous rejoins complètement, en tout cas, sur le schéma que vous avez proposé, on n'est pas dans le verbal. On est dans l'action. Et dans l'action, ça perturbe. Donc en phase 2, il fallait absolument avoir des gens, des personnes, je dirais stables psychiquement, en capacité de recevoir. Et voilà, ça a été la première définition, la première difficulté, en tout cas dans le projet qui était le nôtre. Ensuite, c'était d'être dans une résonance où, à un moment donné, effectivement, on est dans la fermeté, la bienveillance aussi. Parce que c'est des gamins qui ont besoin, j'apprécie votre retour, Mathis. Hein. À un moment donné, vous dites, j'aurais préféré que ce soit pérenne, pardon. Bon, je te tutoie alors. Ou c'était, ils voulaient chercher un lieu pérenne. Et nous, effectivement, c'était un peu l'essence de notre projet. Et à partir de là, voilà, les choses se sont construites autour de ce projet-là. Et aujourd'hui, après un an, je dirais un an et demi de recul, effectivement, on a des gamines, enfin, on a des jeunes filles qui étaient dans la prostitution dure, qu'on a réussi à éloigner, d'autres gamins qu'on a réussi tout doucement à remettre dans la scolarité. Donc, effectivement, le curseur, on le bouge en fonction de leur évolution. Mais ce qui reste intrinsèquement, c'est qu'à un moment donné, ils savent, quoi qu'ils fassent, ils sont chez eux. Ils ont fini par appeler la maison du bonheur, le DAS, où ils l'ont mis sur le mur. Parce que, comme chacun avec nos enfants, au final, enfin, je veux dire, à un moment donné, rares sont les fois où, parce que nos gamins ont fait telle ou telle bêtise, on s'est dit, on arrête. Et à tout âge, on leur a toujours laissé la porte ouverte. Donc, effectivement, on a été de retranscrire ce schéma-là au sein du dispositif d'accompagnement spécifique. Voilà un petit peu l'expertise qu'on a à l'interne et que je voulais partager avec vous.
Merci beaucoup. Alors, avant que je te laisse la parole, Michel, il y avait Mathis qui voulait reprendre un petit coup le micro aussi. Ou ça peut être plus tard si tu préfères. C'est comme tu veux.
Je voulais intervenir par rapport au mot incasable. Je voulais que vous sachiez que des fois ça peut faire mal ce mot-là, parce qu'on l'a déjà dit. Parce que c'est pas un mot. On n'est pas incasable. Comme disait le monsieur, on a chacun notre place quelque part, c'est juste que c'est le temps qu'il faut qu'on la trouve. Et c'est le temps aussi qu'on s'adapte au fait d'être placé, parce que moi ça ne fait que un an et demi que je suis placé. Ça fait que un an et demi que je suis séparé de ma mère et que, sans parler trop de l'intime, c'est compliqué pour moi. Et certes, il y a beaucoup de choses qui font que des fois, ben, on pète des plombs. Il y a des fois aussi où on profite. Je tiens bien à le dire parce que, et il y a des fois aussi où justement il y a des situations comme le harcèlement et comme moi, mon expérience où j'ai été. Ce que j'en veux à l'ASE d'ailleurs, c'est d'avoir été directement placé en psychiatrie après avoir été aux urgences sans demander mon avis, sans que je puisse même en placer une. Et c'est peut-être ça au fait aussi, le fait d'être placé trop vite dans ces lieux-là pour des crises, qui en fait permettent aussi de changer la mentalité du jeune, qui peuvent aussi les faire partir de l'autre côté. Si dans leur tête, ils peuvent aussi, changer de mentalité, changer de façon, changer de facette. Pourquoi ? Parce que dans ces psychiatries-là, sachez que les mineurs, quand ils rentrent, ils vont en isolement. Et c'est pas pour un jour ou deux, c'est pour 7 jours. Et c'est quelque chose qui est horrible, que personne ne souhaiterait avoir. Parce que c'est quelque chose où on est enfermé dans une chambre avec un lit attaché, et personne ne veut ça. Donc sachez-le, c'est quelque chose où, vraiment, j'aimerais bien que ça n'arrive à plus personne, parce que la psychiatrie, ce n'est pas le lieu où on peut régler les crises. Il y a d'autres façons, je pense. Voilà, c'est tout.
Merci, Mathis. Michel.
Oui, moi, je vais revenir peut-être à des choses un peu plus terre à terre. Alors, vous me connaissez, je pense, puisque je suis intervenu tantôt, puisque je suis le président de la SBL, mais je fais ça de façon tout à fait bénévole. Et donc, j'ai un employeur, et cet employeur, il m'a confié une mission, c'est une mission de direction générale d'une institution du même type que le foyer de Roucourt, avec le même genre de jeunes accueillis. Et donc, un public, puisque nous avons une convention avec l'aide sociale en France, je suis directeur du Bocorico-Ga, et on l'a effleuré, tantôt, Vincent, tu l'as effleuré. Moi, je voudrais parler de personnes qui, pour moi, ont un rôle essentiel dans la collaboration qu'on doit avoir entre les établissements belges qui accueillent ces jeunes qui nous sont confiés par l'aide sociale à l'enfance et nos établissements, ce sont, bien souvent, je vais dire des référentes, ce sont les référentes sociales. Parce que, malheureusement, trop souvent, et je vais employer le terme impression que nous avons, et c'est sans doute une impression, et ça dépend aussi parfois, malheureusement, de la personnalité ou simplement des personnes, c'est nous avons l'impression que quand le jeune arrive dans notre institution, elles ont réussi leur mission. Et qu'après, malheureusement, on a encore besoin d'elles, parce qu'on est dans un partenariat, et que nous, en Belgique, on n'a pas toutes les clés pour ouvrir toutes les portes, parce que notre but, ce n'est pas de garder ces jeunes en Belgique, c'est bien qu'ils retrouvent le territoire français à un moment ou à un autre, et le plus rapidement possible. Et c'est de pouvoir ouvrir des portes. Et là, je vous lance vraiment un appel. C'est peut-être d'avoir une réflexion commune ensemble, où on puisse se rencontrer. Je pense que les personnes très habilitées qui pourraient le faire, c'est sans doute les responsables territoriaux. Et je pense que là, on pourrait co-construire une façon de fonctionner ensemble.
Vous pointez vraiment. De toute façon, cette question-là, elle a été pointée aussi avant. Vous l'avez un peu abordée. Et nous, vous inquiétez pas, on l'a bien pris pour nous, on l'a bien noté. Je pense que, clairement, on en est conscient. Ça reste notre défi. Alors, non pas parce qu'on est avec des gens qui n'ont pas forcément envie de travailler, encore qu'on pourrait en avoir, on en a. Mais les métiers de l'humain, ils sont en crise partout. Vous les vivez aussi. On est face à des... Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on est face à des professionnels soit en usure professionnelle, soit jeunes professionnels pas préparés à vivre ce qu'ils vont vivre à l'aide sociale à l'enfance, clairement. Donc à tel point qu'au département, nous, on a dû mettre en place un parcours de formation d'adaptation à l'emploi, parce que sinon, on va perdre tout le monde. Du fait, on a un turnover. On s'est rendu compte que là où on avait les équipes qui restaient le moins longtemps, c'était sur les postes de l'aide sociale à l'enfance. Et que du coup, c'était des CDD, des gens qui tournent, des nouveaux, des jeunes pros pas préparés à vivre ce qu'ils vont vivre, et ou des gens usés sur leurs fonctions. Alors qu'avant, il y a quelques années, au département, quand on parlait de l'aide sociale à l'enfance, c'était la mission, voilà, la mission noble du département. On n'est plus du tout là-dedans. On est avec un public aussi fragile parfois que les personnes qu'on accompagne. Donc ça excuse pas, hein. Enfin, ça explique, ça excuse pas, parce qu'on sait bien que sans ça, on n'y arrivera pas non plus. Alors, mais je suis d'accord pour y travailler, sachant que c'est un défi pour nous, parce que ben, on est le plus gros département de France, hein, qu'on accompagne 20 000 enfants, qu'on a, je ne sais plus, je pense que moi je dois être responsable d'une direction qui doit compter 5 000 agents, si je compte les 2600 assistants familiaux, vous voyez, un truc énorme. Donc pour réussir à aller toucher jusqu'aux pratiques de celui qui est au bout de la chaîne, c'est pas évident, on en parle souvent avec mes collègues, on a du mal à communiquer, à faire que voilà, tout ce qu'on veut initier aille jusqu'au bout. Mais on a pris le taureau par les cornes, on a envie vraiment d'améliorer les pratiques, on a même embauché, puisque récemment on a essayé de diminuer leurs charges, hein. Les référents étaient très chargés en nombre de suivis, donc on est passé là on est descendu à 30 situations par référent, alors qu'on était à 35, quelques années avant on était à 40, ça reste beaucoup, hein. C'est pour ça que je vous dis, il faut voir de où on part. Après, ça n'excuse pas, on sait aussi que parfois il faut rappeler le cadre, les obligations, retravailler sur les missions. Et ça, on est dans une collectivité qui a du mal à le faire. Mais on peut je pense que vous avez raison, c'est en travaillant ensemble avec les collègues de terrain que ça bougera.
Je pense que ça, d'abord, être conscient des missions qu'on a chacun, des limites de ces missions, et travailler, et donc
pouvoir prendre conscience de ça et voir ensemble ce qu'on va pouvoir faire, c'est travailler pour la qualité de l'accueil du jeune qu'on accueille. Et c'est là uniquement le but. Hein. Je vous rassure, vous savez, ce n'est pas que le département du Nord, et ce n'est pas que le public français. On rencontre ça aussi avec nos différentes administrations. C'est parfois compliqué avec l'état de la jeunesse chez nous aussi, vous savez. Je vous rassure.
Très bien.
Je voudrais juste...
Oui, bien sûr.
Je
parlais tout près.
Oui, la place du référent, elle est centrale dans la situation. Mais j'ai envie de dire qu'il faut aller même beaucoup plus loin. Alors, au niveau des équipes mobiles, lorsqu'on ne trouve pas de dispositif qui pourrait apporter plusieurs réponses, on est amené à orienter vers la Belgique et dans vos établissements. Très souvent, alors on fonctionne, nous, hein, en commission. Quand cette commission elle s'est mise en place pour les équipes mobiles, elle avait pour but de nous transmettre des situations qu'on avait pour obligation de prendre. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. On partage, oui, on pourra y répondre, oui, ça correspond, non, peut-être que c'est ce qu'il faudrait. Et cette commission, elle assure aussi une mission de suivi, parce que ces difficultés, on les rencontre nous aussi. Et on s'est posé, on a fait un séminaire il n'y a pas très longtemps, hein, sur les équipes mobiles situations complexes. Madame Diaz était là. Et à un moment, il y a eu des questions très très intéressantes de l'après-équipe mobile, parce que c'est vrai que quand on remplit notre tableau, bah, on est content, on se dit « oui, il a eu un établissement, il y a quelqu'un qui prend en charge, enfin ». Donc pour sécuriser, nous, on demande à prolonger, c'est des mandats de 3 mois, mais pour le coup, on fait du 1 mois et demi pour de dire au moins avoir les rencontres, aller voir comment le jeune, comment ça se passe pour lui dans l'établissement, si vraiment ça marche, mais il y a l'après, le 3 mois, le 6 mois, le 1 an... Et avec toujours cette crainte, on se dit, oh là là, s'il est parti en Belgique, plus personne va le voir, et c'est déjà arrivé. Sur 2-3 situations, c'est déjà arrivé. Notre mission, nous, elle s'arrête à un moment donné. On essaie de sécuriser au maximum, mais j'ai envie de dire plus largement, enfin, au-delà du référent, est-ce que cette co-construction qu'on met au début, qu'on met pendant, il ne faut pas la poursuivre après? Et ces commissions dont je parle, qui peuvent être des comités de suivi, avec les DT, moi je travaille avec eux depuis quelques années, je prends plaisir parce que c'est du partage et on arrive à se dire facilement ce qui ne va pas chez l'un et ce qui ne va pas chez l'autre, pour réajuster. Voilà, c'est tout.
Ça rejoint un peu la question du case management que M. Nert évoquait tout à l'heure. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important. Alors, je me faisais une autre réflexion aussi, parce qu'on parlait de la difficulté des professionnels. Probablement que pour les professionnels, il y aurait une vraie plus-value aussi par rapport à leur mission et par rapport à leur travail, à s'inscrire dans un dispositif comme celui-là, parce que effectivement, c'est des gens qui sont confrontés chaque fois à des situations très très difficiles, très très compliquées et qui sont lourdes émotionnellement, et voir aussi pour eux des jeunes qui s'en sortent, c'est aussi quelque chose qui pourrait être super positif, voir à quoi sert leur travail, parce qu'une fois qu'on a trouvé la solution et puis on lâche le jeune, on ne sait pas ce qu'il vient. Et puis on se ressaisit d'un dossier qui est de nouveau compliqué, difficile. Je pense que ça pourrait être aussi une plus-value pour les professionnels.
Donner du sens, carrément. Oui, oui. Tout à fait.
Ouais, en fait, je voulais juste rebondir aussi sur ce qu'il vient d'être dit. C'est-à-dire que moi je partage tout à fait les remarques et Alexandre l'a dit, il y a des manquements professionnels clairs qu'il faut qu'on pointe et qu'il faut qu'on sanctionne. Je n'ai pas peur de le dire aussi. En fait, on voit bien souvent du côté des référents ASE qu'en effet, l'arrivée en Belgique, c'est un aboutissement de parcours, alors que ça devait être une continuité de parcours.
Absolument.
Et que, en fait, mais c'est parce que les Belges sont tellement forts, quoi, que du coup, en fait, il y a cette impression quand même. Et il y a aussi un phénomène aussi, et vous venez de le dire, Madame Roulquois, c'est que certaines situations sont tellement lourdes qu'à un moment donné, quand on sent que quelqu'un prend le relais, ben, il y a un phénomène de relégation qui malgré tout s'installe et qui fait de se dire bon bah enfin on a trouvé quelqu'un qui va pouvoir me soulager et du coup je passe à autre chose. Et c'est vrai qu'on a un travail à faire aussi sur la question du fil rouge qui est indispensable pour les institutions, qu'elles soient françaises ou belges d'ailleurs, et sur lequel moi je saisis tout à fait la proposition de Monsieur Lefebvre de travailler avec les institutions belges qui sont tellement fortes pour justement réfléchir et avoir une vraie dynamique de processus avec ces éléments-là.
Alors, on reprécise que l'angle de la journée était bien la coopération transfrontalière et pas la mise en concurrence, hormis au football, bien sûr, où la messe a été dite et depuis bien longtemps déjà. Mais voilà. Plus sérieusement, ça fait transition, cette notion de fil rouge, et du coup, je me tourne vers vous, Madame Bounois. L'intitulé de votre poste, c'est coordinatrice thérapeutique. Et ça, c'est pas forcément un intitulé qu'on a l'habitude de retrouver dans les équipes des structures, qu'elles soient sociales ou médico-sociales. Par contre, la notion de coordination, on la mange un petit peu à toutes les sauces et quels que soient les dispositifs dont on parle. Alors, est-ce que vous pouvez nous repréciser peut-être en quoi ça consiste être coordinatrice thérapeutique à la Cour Carrée ? Et je précise aussi que pour tenir le timing, ce sera la dernière question.
Donc je suis coordinatrice thérapeutique, donc je dois travailler avec les jeunes, mais aussi avec l'équipe. Donc je dois être présente tant pour les jeunes, sur le groupe, et également pouvoir coordonner un peu les équipes, les aider sur le terrain, dans les réflexions plus cliniques, et voilà. Et ça se fait notamment beaucoup au niveau des réunions interdisciplinaires. Il y a toute une communication tous ensemble.
De formation initiale, psy ?
Psychologue clinique de l'enfant et de l'adolescent.
Ok. Et ce qui est un prérequis dans la fonction de coordination thérapeutique à la Cour Carrée. On est d'accord. C'est bien ce que tu avais dit tout à l'heure, Claude. Ok.
Et je suis actuellement en formation psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent aussi, pour continuer à me former continuellement.
Ok. Merci bien. On peut rappeler peut-être combien de coordination thérapeutique à la Cour Carrée ?
Ou au Frédéricourt ?
Non. Les deux, donc, capitaine, mais spécifiquement à la Cour Carrée, je peux élargir après, mais est-ce qu'il y a une seule coordination thérapeutique ?
Il y a une seule coordination thérapeutique, et en fait, on a 6 coordinateurs thérapeutiques, il y a quand même un homme dans le lot, en fonction, c'est un peu compliqué à expliquer, mais dans le résidentiel, par exemple, on fonctionne par entité, et on a à chaque fois un chef de service et un coordinateur thérapeutique. Dans d'autres structures, c'est un peu hybride, un peu mixte, mais en gros, toutes les structures de l'institution sont articulées autour d'un chef de service et un coordinateur thérapeutique. Je vois mon collègue qui veut dire quelque chose. Il aime bien me compléter en général.
Maintenant, la différence entre la Cour Carrée et les autres services de l'institution, c'est que la Cour Carrée, c'est un équivalent temps plein coordinateur thérapeutique pour 12 jeunes, tandis que dans les autres structures, on est sur un équivalent temps plein pour 30, 40 jeunes. Et effectivement, le poste de Vincent est également de ce type-là. Donc, on est sur un équivalent temps plein pour 12 jeunes, alors que dans les autres structures, on est sur un équivalent temps plein pour 40 jeunes. Oui. Voilà la différence, quoi.
OK.
C'est
à la hauteur de l'ensemble de l'accompagnement. Très bien. Merci à vous. Écoutez, avant de clore ce tour de table, je voudrais déjà qu'on remercie beaucoup chacun de ces intervenants. Merci à vous. Merci tout spécial à Matisse. Je reconfirme ce que je disais tout à l'heure. C'est essentiel, absolument essentiel, de donner directement la parole aux personnes qui sont concernées, quel que soit leur âge et quelle que soit leur situation. Avant la synthèse proprement dite, deux mots sur les supports qui vous ont été présentés. Le PowerPoint de Claude, qui lui a été demandé par plusieurs personnes, dont moi-même, et qui sera donc disponible sur le site de l'Institut de Raucourt. Je resitue texto l'échange que nous avons eu à ce sujet, non pas lundi matin, je suis sûr que vous le pardonnerez, mais dès la rentrée de janvier. Voilà. Et de la même manière, vous pourrez retrouver la petite vidéo si vous souhaitez vous en servir, qui sera également dispo et pour laquelle on remercie Madame Lola Delvigne, qui est elle aussi coordinatrice thérapeutique dans plusieurs services des accueils de jour de l'Institut de Raucourt. Merci à elle. Voilà pour les aspects pratiques. Et donc, Serge Fourmeau m'avait demandé de faire une synthèse de la matinée que je vais donc tenter maintenant, en commençant par lister les mots qui peuvent faire mal, comme ça a été rappelé. Incasable, double diagnostic, double vulnérabilité, problématique multiple, situation complexe, parcours complexe, jeune à la croisée des secteurs. On a donc eu 7 dénominations différentes en se disant à chaque fois que ces dénominations n'étaient ni stables ni satisfaisantes. Par contre, ce qu'on a posé, et les collègues Jean-Yves Barrère, qui était donc directeur du CREAI Île-de-France, et Patricia Fiacre, qui est conseillère technique au CREAI Nouvelle-Aquitaine, avaient montré dans leur rapport de 2008 que la complexité ne résulte pas uniquement des caractéristiques du jeune, bien sûr qu'elles lui sont liées, mais qu'elle résulte aussi des caractéristiques de l'environnement dans lequel ce jeune évolue. Et là-dessus, les métaphores se multiplient. Choisissez celle qui vous sied. La lasagne, le millefeuille. On pourrait également songer au tuyau d'orgue, au silo, et il y en a certainement que j'ai encore oublié. On a également été amené à parler de comportement défi. Et ça, c'est une expression qui a fait ses preuves. Parce que ce qui fait défi, ce n'est pas le jeune lui-même, mais le défi pour l'institution d'accueillir et d'accompagner, parfois de stabiliser ou de limiter, les comportements des personnes concernées. Dans un contexte où on ne sait pas encore bien soigner des troubles qui sont consécutifs, au moins en partie, à des maltraitances, à des défauts de soins, au-delà de troubles ou déficiences qui seraient présentés par ailleurs, il n'y a donc pas d'autre choix que de permettre à la personne de vivre, d'accéder au droit avec ses difficultés et ses limites dans un environnement accueillant. Le pari est que si on permet l'accès à ces droits, parmi lesquels il y a l'accès aux soins, par exemple, ça a été rappelé ce matin, le pari est donc que des capacités, des potentialités pourraient trouver à s'exprimer et à se développer au-delà des difficultés qui sont souvent la première étiquette attribuées aux personnes concernées. Pour tout ça, pour que l'institution sache s'adapter aux individus, il n'est pas possible de travailler seul, ça a été dit. Depuis les constats posés par Jean-Yves Barrère et Patricia Fiacre en 2008, beaucoup de choses ont évolué. Regardons le demi-verre plein. Il y a eu nombre de textes législatifs. Alors, en 2008, la loi de 2007 était encore chaude sortie du four. Depuis, il y a eu une loi en 2016 en protection de l'enfance. Il y a eu une loi Taquet en février 2022. Il y a eu une stratégie nationale protection de l'enfance. Il y a eu une stratégie sur les 1000 premiers jours. Il y a eu plein de rapports qui sont sortis. Le rapport zéro sans solution de Piveteau qui a été cité tout à l'heure. Il y a eu un rapport que je pense que tout le monde connaît, au moins côté français, le rapport du défenseur des droits. Sur des droits pour des enfants invisibles. Aujourd'hui, on contribue à rendre visibles ces enfants qui, si on reprend les propos du travailleur, n'importe quoi, du défenseur des droits, mérite une double attention parce que, justement, présente des problématiques multiples. Il y a eu deux conférences de consensus sur les besoins de l'enfant. Bref, tous ces textes ont permis d'insister sur plusieurs points qui, je pense, font consensus aujourd'hui. L'importance de la réactivité, tant côté déficience ou trouble, le repérage et la prise en charge précoce. Dans mon inventaire à la Prévert des textes, j'ai fait un angle mort sur les textes du handicap, mais qui sont aussi nombreux, au moins aussi nombreux que ceux en protection de l'enfance. Deuxième point, la multidimensionnalité des besoins de l'enfant et la pluralité de leur nature. Les enfants présentent des besoins qui sont universels, et les enfants dont nous avons parlé aujourd'hui, les jeunes dont nous avons parlé aujourd'hui, peuvent présenter en plus des besoins particuliers liés à une situation de handicap et des besoins spécifiques liés à un parcours relevant de la protection de l'enfance. Importance d'insister sur la dimension psychotraumatique des violences subies, ça a été rappelé à plusieurs reprises. Importance de prendre en compte le point de vue des familles et d'accompagner ces familles. Importance du lien d'attachement et le rôle pas que des adultes, mais des pères aidants dans ce cadre. Ça a été dit tout à l'heure par les éduques et c'est essentiel. Et la nécessité, enfin et surtout, de prendre en compte non seulement les besoins, mais aussi les attentes des personnes dans la construction de leur projet. Alors tout ça a émergé, je le redis. On n'en était pas là en 2008. Donc voyons, sachons balayer devant notre porte. C'est très bien de se dire on n'est pas suffisamment bon. Sachons aussi marquer pour donner du sens les progrès, même si c'est que des petits pas. Les politiques, ça nous a été dit par Madame Rucquoy, prennent conscience de ces besoins, tentent de développer de nouveaux projets, tentent de leur donner les moyens. Notre réunion inaugurale d'aujourd'hui en est la preuve. Et de promouvoir des solutions qui sont toujours co-construites pour pouvoir bien marcher. Pour pouvoir bien marcher, ça nous a été dit aussi, il faut de la formation, de la supervision, un questionnement évaluatif sur l'organisation, du management participatif, un lien continu avec les autorités de tarification et de contrôle, et puis, et ça fait du bien de le rappeler dans le contexte que nous connaissons tous au niveau RH, prendre soin de ceux qui prennent soin. Cette question RH a été qualifiée de primordiale. Enfin, rappeler que cette matinée est envisagée sous l'angle de la coopération transfrontalière. L'histoire franco-belge est une histoire longue. Grâce à certains DG présents dans la salle, adhérents de la Ligue nationale du handicap, j'ai appris, il y a un an tout pile, que l'histoire franco-belge, elle démarrait dans les années 50. Et j'étais loin de me douter que ça remontait à aussi loin. Gageons que l'histoire n'est pas finie, même s'il y a un contexte spécifique du plan de prévention de départ non souhaité vers la Belgique. Mais il faut aussi rappeler que, notamment quand on est dans la proximité des bassins de vie, il y a aussi des départs qui ne sont pas subis, mais qui sont choisis. Et que on aspire à renforcer le partage d'expériences entre acteurs dans une logique de coopération transfrontalière pour inspirer les uns des bonnes pratiques des autres. Deux citations pour finir. La première, je l'ai appris le week-end dernier en sortant avec mon gamin au musée qui s'appelle Science et Expérience à Paris. Et c'est monsieur Albert Einstein qui nous la donne. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Donc on espère que les informations de ce matin inciteront à l'expérience. C'est un peu ça le message. La deuxième, lue ce matin dans le journal, c'est un économiste qui parle des énergies, dans un contexte que nul n'ignore. C'est Jacques Percebois qui nous dit « On peut être dépendant sans être vulnérable et indépendant tout en l'étant ». C'est une belle incitation à l'interdépendance que nous donne cet économiste et je pense que dans le cadre transfrontalier, c'est la meilleure leçon qu'on puisse tirer. Je m'arrêterai là puis j'espère que vous avez passé une bonne matinée.
Voilà, un tout grand merci à tout le monde, évidemment. Et comme nous sommes en Belgique, on clôture généralement ce type de manifestation par le verre de l'amitié, bien évidemment. Merci.